Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la parentèle enchantée. Je suis Cynthia et je vous retrouve tous les premiers mercredis du mois à 11h pour une émission qui vous parle de parentalité sans vous donner l'impression d'être de mauvais parents. Avec moi en studio, Rémi, le papa.
Salut Cynthia, ce mois-ci nous allons parler d'un moment crispant, parfois tendu, les repas avec nos enfants. Et pour cela, nous recevrons Fanny Alliot, auteure du livre « À table avec bébé », qui nous prouvera finalement que non, c'est pas si crispant, c'est pas si tendu. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Nous sommes ravis de te recevoir et de présenter ton livre qui colle bien à notre devise d'ailleurs. Loin des dictats malsains et des injonctions déguisées en conseils bienveillants, toi aussi à ta manière, tu rappelles qu'il y a mille façons d'être parent.
J'échangerai ensuite virtuellement évidemment avec mes filles parce que je crois que j'ai une grosse colère, Cynthia, à comprendre.
Eh bien, je te souhaite bon courage. Ouais. Et pour ma part, je tenterai de comprendre ce qu'il se passe dans la tête de Zoé quand elle décide du jour au lendemain d'arrêter les couches.
Et ce mois-ci, Mamilo, elle a pris quelques vacances et nous l'embrassons très fort en attendant son retour. Mais d'abord, place aux brèves.
« 72 parlementaires qui se sont opposés à ce que le droit à l'IVG soit inscrit dans la Constitution. »
Principalement des hommes, on s'en doutait, et quelques régionaux de l'État, notamment Xavier Breton ou Étienne Blanc.
Ce qui est déplorable, c'est pas tant que 72 gugus puissent voter contre, mais que 72 gugus qui ont encore le cerveau en 1700 puissent être représentants de la nation.
Ouais. Ce que t'en penses, mais... Ouais, je ne sais pas si ça te parle, Cynthia, mais je vois même le nom d'une certaine Anne-Laure Blin. C'était une étudiante qui était avec moi dans les amphis et je me prenais régulièrement la tête quand il y avait des mouvements étudiants à la tribune. Enfin, j'ai découvert qu'elle était devenue députée. C'est terrible.
Dommage. Renforcer l'égalité homme-femme pourrait doubler la croissance mondiale. C'est un rapport de la Banque mondiale qui le dit.
Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle quand on voit les dégâts, les dégâts de la croissance sur notre planète, quand même.
Bon, peut-être que l'égalité homme-femme pourrait surtout améliorer les rapports sociaux et environnementaux.
Oui, ça c'est certain. C'est certain.
En parlant d'égalité homme-femme, tiens, justement, vous savez que c'est la mère dans 90% des démarches administratives liées à la scolarisation de leur enfant.
Et si c'était le moment d'inverser la tendance, on va commencer sur de bonnes bases en inscrivant son enfant à l'école. Et Cynthia, je peux m'y coller, si tu veux.
Allez, banco. Ça tombe bien, puisque les inscriptions scolaires se déroulent du 4 mars au 16 juin.
Justificatif de domicile, livret de famille, vaccination à jour, et puis c'est à peu près tout. Allez, hop, plus d'excuses, j'y vais.
À propos d'excuses, le bijou magique, la crise de foie, le coup de froid, vous y croyez, vous ?
Un peu, non ? Fanny, t'y crois, toi ? Est-ce que le bijou magique, ça marche ?
Un petit peu, psychologiquement, je pense que ça marche.
Ouais.
Justement, soit on est dans le domaine de la croyance, soit dans celui de la science. Et qui de mieux qu'un médecin pour débunker les idées reçues ?
Et c'est donc le fameux Toubib or not Toubib qui nous propose un nouveau guide pour tirer le vrai du faux en pédiatrie. Disponible dans toutes les librairies, le titre « Le bijou magique existe-t-il ? » Spoil, la réponse c'est oui, en fait, le bisou magique, il existe vraiment. Enfin, c'est plus complexe, mais il existe.
Très bien. Aujourd'hui, on fait un petit retour en arrière puisqu'on va vous parler de diversification alimentaire. Nos filles ont clairement passé ce stade depuis un moment, bien que Zoé aurait le droit de diversifier encore un peu ses légumes admis, mais un livre nous a offert l'opportunité de se repencher sur ce vaste sujet. Ce livre, c'est « À table avec bébé » ou « L'épopée d'une diversification libre et autonome », comme aime le nommer son auteur Fanny Alliot.
Bonjour Fanny. Alors, avant de nous expliquer ce qu'est une diversification libre et autonome, est-ce que tu peux nous parler de l'origine de ton livre, te présenter un petit peu ? Alors moi, j'ai une petite idée, mais d'où t'est venue l'idée d'écrire sur ce sujet ?
Alors bonjour à tous, je suis donc la maman de trois enfants. Et pour mon premier enfant, j'étais en Italie, je l'allaitais. Il avait déjà quelques mois et je commençais déjà à me poser la question qu'est-ce qui va se passer la prochaine étape ou surtout comment va se passer la prochaine étape. J'avais le souvenir de mes copines qui faisaient des tas de petits pots, qui les congelaient, décongelaient pour partir en vacances ou ne serait-ce qu'un week-end, qui s'évertuaient à leur donner à manger à la cuillère, à se stresser à chaque bouchée non avalée. Et je me suis dit, ma part, ça va être très compliqué ce genre de choses. Et je me connaissais et je me disais, oulala, j'ai vraiment stressé. Ça va être très anxiogène et je vais sûrement refiler ça à mon enfant. Et puis, comme par hasard, j'ai entendu parler de la diversification dite naturelle. On était en Italie et des copines m'ont parlé de ça. Et ça m'a fait sens, c'est naturel. Parce que oui, ça me paraissait pas très naturel du coup de donner des bouchées comme ça, des cuillerées à mes enfants. Et en m'en renseignant, je suis tombée sur la diversification alimentaire menée par l'enfant. C'est ce qui était très connu aussi, c'est ce qui est encore très connu en Angleterre, recommandé même d'ailleurs par les bonnes équipes de pédiatres. Donc voilà, comme quoi c'est pas fou. Et voilà, j'ai tenté l'aventure. Alors c'est vrai qu'avec mon fils, il était le candidat idéal. Donc vraiment, ça s'est très très bien passé. Il a fait tout en autonomie, avec joie et vraiment avec des progrès incroyables. J'ai vraiment découvert une autre facette de mon fils. Et puis le fait d'être tous ensemble à partager ça pendant nos repas, ça nous a vraiment... ça nous a donné beaucoup de satisfaction. Et quand je revenais en France, j'en parlais à mes amis. Et vraiment, elles ne connaissaient pas. Elles m'en prenaient pour presque une folle. Et qu'elle allait faire... voilà, avec toutes les doutes que ça peut soulever de ce... d'étranglement de l'enfant ou je ne sais quoi, ou le gâchis qui n'est pas forcément le cas, hein, la saleté qui peut être remédiée. Voilà, et je me suis dit là, il va falloir vraiment que ça se démocratise un peu en France et surtout que puisse l'intérêt de mon livre, c'est voilà, de reprendre un peu la diversification libre et autonome, que ce que j'aime le dire, parce que c'est plus libre sur l'autonomie et la liberté de l'enfant. Et pas être trop dans la DME où on est assez dans un mode psychorigide et chacun fait un peu à sa guise. Bah, chaque parent est différent, chaque enfant est différent surtout, et voilà, on s'adapte en fonction de ce qu'on peut faire face.
Ouais, ça me parle, moi, ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand la diversification arrive, bah, c'est une sacrée aventure pour nous parents, d'ailleurs, plein de bons sentiments. On avait acheté le fameux mixeur bébé, pas pour mixer le bébé, pour mixer les aliments de bébé, qui ne sert absolument à rien, et on avait préparé les jolies purées pour notre première fille. Ouais, mais sauf qu'il y a un mais, justement, Mademoiselle Lou vivait très mal les moments de repas. Et c'est vrai qu'on l'avait toujours habituée à être à table avec nous depuis sa naissance, et il est fort possible qu'elle se soit sentie lésée quand, enfin autorisée à partager nos repas, lui a présenté des mixtures peu ragoûtantes qui n'avaient rien à voir avec nos assiettes. Ce qui aurait pu être un moment de partage s'est alors transformé en frustration et en pleurs où chaque cuillerée devenait une épreuve dure à franchir. Bon. Et c'est alors là que nous est venue l'idée. Et tiens, et si on lui donnait sa nourriture, non pas sous forme de purée informe, mais en morceaux, suffisamment cuits pour s'écraser en bouche. Même résultat, mais en laissant notre fille bien plus libre de découvrir par elle-même et s'approprier ce nouveau mode d'alimentation. Et là, miracle, elle s'est mise à dévorer, insatiable de découvrir chaque aliment, et les repas ont pu redevenir un moment de sérénité pour nous, parents.
Alors, notre expérience, elle se rapproche finalement de la tienne. Alors nous, Cynthia, on était quand même un petit peu... On avait découvert ça par des groupes Facebook ou autres. Alors toi, tu parles de diversification libre, de diversification autonome. Mais c'est vrai que dans ce qu'on trouvait à ce moment-là sur Internet, c'était vraiment DME, diversification menée par l'enfant. Et le côté libre, le côté autonome, il apparaissait pas forcément, quoi. Et dans ton ouvrage, en fait, ce qu'on a trouvé avec Cynthia, c'est que justement, quand tu écris, tu laisses finalement le lecteur libre d'exposer finalement comment tu fais, et tu culpabilises pas les jeunes parents, et c'est un peu une clé en fait de pas se culpabiliser, non ?
Oui, c'est la clé. C'est vraiment dans cette optique-là que j'ai voulu écrire. Il n'y a pas de mauvais ou de bons parents. Mmh. Déjà, les parents parfaits n'existent pas. Hein. Même un être humain n'est pas parfait. Alors encore moins les parents. Et surtout, dès qu'on rentre dans cette culpabilité, dans cette anxiété, eh bien, ça se transmet. Ouais. Ça se transmet à l'enfant. Et après, on a des blocages. Voilà. Et c'était vraiment l'intérêt de se décomplexer et de faire les choses le plus simplement possible. Et plus naturellement, en répondant juste au fait de laisser l'enfant libre. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans mon livre, mais je trouve que c'est un peu la même image que laisser l'enfant marcher quand il en a envie, en fait. Je ne connais aucun adulte qui est encore à quatre pattes. Et on est tous capables de marcher un jour, et en fait, on est tous capables de manger par soi-même un jour. Il faut juste le laisser lâcher prise, quoi.
C'est ça, le lâcher prise. Oui. Ça,
C'est vrai qu'on a quasiment 200 000 ans, depuis 200 000 ans, le corps humain s'adapte à la vie, s'adapte à son environnement. Et l'invention de la cuillère est quand même très, très récente par rapport à l'histoire.
Oui.
L'histoire de l'humanité, c'est pas pour autant qu'on a. Ouais. Alors, on en a laissé forcément, mais voilà, on n'a pas laissé mourir les enfants.
Exactement, jusque-là, de faim. Ouais.
Et justement, au-delà du mode d'alimentation de nos tout-petits, il y a aussi la manière de le faire. Parce qu'on aura compris que la diversification libre-autonome, du coup, c'est de ne pas donner forcément des purées, mais plutôt des morceaux à l'enfant qu'il va gérer lui-même. Et moi, j'ai toujours eu un peu de mal à comprendre les parents qui se tapent le double service de repas pour faire manger leurs petits. d'abord avant les adultes. Alors, je ne juge pas, loin de là, hein, parce qu'on sait que dans cette émission, on est loin de juger les autres parents, parce que j'imagine qu'ils y trouvent un intérêt. Mais ça me semble simplement plus de boulot, en fait, pour le parent. Au final, c'est un peu comme l'allaitement à la demande. Ça m'a semblé beaucoup plus pratique de sortir mon sein à tout va dès que bébé avait faim. Et de la même manière, les repas de loup devenant très rapidement les mêmes que nous, et se déroulant en même temps que nous, ça m'a paru bien moins galère, finalement, que de faire des purées spécifiques et de devoir donner la béquille en essayant moi-même d'avaler mon repas d'une main. Enfin, bref. Donc, moi, je suis pour la parentalité de Fénia, ça me parle assez bien, finalement. Et du coup, justement, toi qui parles d'inviter bébé à table avec bébé, le titre de ton livre, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ça se passe, ces repas, concrètement?
Concrètement, de toute façon, quand ils ont déjà 3-4 mois, ils sont déjà assez éveillés pour être ne serait-ce qu'autour de nous, au lieu de les mettre dans un parc à côté. S'ils sont en phase d'éveil, bien sûr, on ne va pas les réveiller pour qu'ils se mettent avec nous, mais s'ils sont en phase d'éveil, pourquoi pas rapprocher un Transat ou un landau qui est en position inclinée près de nous. C'est ce qui s'est passé pour ma deuxième. Et c'est pendant ces moments d'éveil, vu qu'on était tous avec son frère, son grand frère et nous à table, on l'emmenait, progressivement, elle faisait partie de nos repas. Alors elle ne mangeait pas parce qu'elle était encore allaitée exclusivement. Mais c'est comme ça que ça marche, ça a commencé. Et ça a fait sens quand elle a commencé à vraiment rester bien assise avec une posture droite, le dos bien droit et la tête qui tenait bien d'aplomb aussi. Ça a fait tout son sens quand on l'a installée sur son siège et qu'on lui a proposé les premiers aliments avec nous. C'est tellement naturel, en fait. C'est des choses qui se produisent dans tous les pays du monde. Et comme Rémi tout à l'heure soulignait, et c'est vrai que l'espèce humaine a quand même survécu sans cuillerée et sans robot mixeur. Et c'est comme ça que notre espèce vit depuis des millénaires, en fait. On partage ensemble des repas dans toutes les générations. En Italie, il y a aussi beaucoup les générations du troisième âge qui vivent avec le premier, le deuxième âge. Et là aussi, on partage des repas ensemble, même si après, chacun reprend son petit, on appelle ça les bifamilières, trifamilières, dans ces maisons qui sont divisées. Chacun reprend son petit bout de maison et son autonomie, son domaine un peu privé. Mais après, pendant les repas, on est ensemble et c'est très naturel d'emmener son enfant à table. Je pense qu'on ne le voit plus dans notre société actuelle.
C'est vrai que c'est aussi un aspect culturel aussi, finalement. D'un pays à l'autre, ça change. Alors, tu parles de la place de chacun en Italie, où finalement le repas est quelque chose de sacré. On s'imagine toujours la gastronomie française, mais il ne faut pas oublier que dans la gastronomie française, il y a aussi tout le côté bonne manière. Et que dans les traités, finalement, de gastronomie ou de bonne manière, jusque 1700, les enfants n'avaient rien à faire à table quand on les mettait de côté. Et puis en opposition, on a le modèle un peu plus scandinave où les enfants ont une place, ont presque une place de choix. Et c'est vrai que quand on regarde le mobilier qui existe, alors le mobilier mobilier français, pas vraiment vu qu'il n'y a plus de mobilier français, mais tout ce qui sort, c'est pas fait pour que l'enfant soit à table dès le plus jeune âge. Mais si on regarde le mobilier scandinave, alors je pense notamment aux chaises de stock avec plusieurs étables.
On est des grands adaptes.
Ouais, non, mais alors c'est pas pour faire de la pub ni rien, mais ils ont carrément. Ils ont un petit cosy qui s'accroche sur la chaise pour que la chaise soit présente à table et que l'enfant soit présent à table le plus tôt possible. Quoi. C'est aussi quelque chose qui contribue finalement à la présence de l'enfant à table. Et qui s'habitue.
Mettre l'enfant à table, ça fait aussi qu'il va s'intéresser à ce qu'on fait. Pourquoi papa et maman ils font ça? Et tiens, mais ça a l'air pas mal. Mais moi j'aimerais bien goûter. Alors que c'est sûr que si on fait des repas séparés, etc., ils n'ont pas cette occasion-là de découvrir qu'est-ce que fait l'adulte.
Et concrètement, Cynthia, je ne sais pas si tu te souviens, quelle est la première chose de grande que Lou a mangé? Si tu te souviens, moi c'est un truc qui m'a bien marqué.
Une pomme, non?
Non.
La pomme sautée avec mamie.
Du pain?
C'était pas du pain, c'était un Noël, donc elle avait 3 mois. On était chez ta grand-mère, Cynthia. Et puis la première chose qu'elle a mangée, en fait, elle a tendu la main, et puis elle a attrapé une tartine de foie gras, puis elle a mangé le foie gras.
Madame a des goûts de luxe.
C'était la première chose qu'elle a mangée. Donc voilà, il y a quelque chose de naturel aussi chez l'enfant qui est présent à table.
Elle a su que c'était bon, elle y a été. Il faut faire confiance aux enfants.
Après, le fait qu'ils soient aussi à table avec nous, les enfants s'imprègnent beaucoup de nos mimétismes et nos gestuels, et ils vont vraiment apprendre grâce à nous, juste en nous regardant. Et c'est incroyable ce qu'ils peuvent reproduire facilement et naturellement. Ça prend tout son sens de les inviter à table et de manger ensemble.
Bon, alors, on va peut-être s'écouter une petite chanson, d'ailleurs, qui colle bien à l'histoire.
Oui, c'est vrai qu'on aime bien toujours mettre une petite illustration sonore. Et là, on s'est dit que dans l'alimentation, il y avait, on en reparlera après avec la pédiatre, mais il y a des faits passifs, faits passifs. On s'est dit que c'était peut-être un titre approprié.
1, 2,
Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas si, fais pas ça, ah dada, faut tout cadet, à cheval sur mon billet. Fais pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pourtant tu tues. Fais pas si, fais pas ça, ah dada, faut tout cadet, à cheval sur mon billet. Laisse ton viens travailler, viens donc faire la vaisselle. Arrête de chamailler, réponds quand t'en t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la glace. Fais pas si, fais pas ça, ah dada, faut tout cadet, à cheval sur mon billet. Tu me fatigues, je n'en peux plus, dis bonjour, dis bonsoir. Ne cours pas dans le couloir, sinon pendant tu tues. Fais pas si, fais pas ça, viens ici au toit de là. Prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit. Fais pas si, fais pas ça, ah dada, faut tout cadet, à cheval sur mon billet. T'es tenu de voir, tu vas recevoir une bête. Qu'est-ce que t'as fait mon peigne, je ne dirai pas de quoi. Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour combien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras ma meilleure. Fais pas si, fais pas ça, ah dada, faut tout cadet, à cheval sur mon billet. Mais j'en fais pas les gars, vous en faites pas les gars. Moi aussi on m'a dit ça. Fais pas si, fais pas ça, fais pas si, fais pas ça. Et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là. La la la, la la la, la la la, la la la.
Bon, c'était on a continué la discussion sans vous, mais nous revoici. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Fanny, tu le disais un petit peu, mais chez nous, du coup, la diversification menée par nos filles, donc en France, hein, n'a pas toujours suscité que des réactions positives, n'est-ce pas ? Entre la peur de l'étouffement, t'en parler, les remarques sur le côté salissant de l'affaire et des phrases cocasses lancées aux débeautés du style « mais elle va manger avec des couverts un jour ». Non, non, c'est comme l'allaitement jusqu'à 18 ans. Hein. Bon, bref, faut bien avouer que parfois, ce choix d'une alimentation différente de nos bambins n'a pas toujours été facile à expliquer, voire à faire accepter par notre entourage.
Alors, l'entourage, c'est l'entourage proche, la famille, mais c'est aussi alors, les pédiatres, forcément, avec les médecins. Comment ça a été reçu par le corps médical, par les pédiatres, si jamais tu avais des rendez-vous ? Est-ce qu'ils étaient plutôt ouverts ou pas forcément ?
J'en ai jamais trouvé des très ouverts. Ouais. Donc, du coup, j'ai toujours un peu couvert ce genre de choses. En Italie, j'avais seulement des recommandations sur. Voilà, ils aiment bien faire de la purée de pommes de terre, de pommes aussi, ou ils appellent ça aussi du riz à la du crème, enfin, de la crème de riz. Alors, je sais pas trop, je me suis jamais trop aventurée là-dedans. Je leur disais toujours oui, mais de toute façon, la courbe était bonne, ils prenaient toujours un peu de poids. J'ai peut-être un peu trop demandé pour l'allaitement des conseils qui n'ont pas été très positifs. Donc du coup, je me suis gardée un peu de ne pas trop demander. Et non, au niveau pédiatre, mais même en France après, c'est... Non. Je me taisais là.
Ouais. Nous, à 4 mois, il nous avait quand même été répondu qu'il était temps de couper le cordon et de lancer l'alimentation diversifiée. Quoi. Donc nous, on a tenu jusqu'à ce qu'il 6. Et après, j'avoue qu'on a des fois un peu menti au pédiatre.
Oui.
Quand elle nous disait attention, à un an, elle nous disait attention, les lentilles, là, vous pouvez commencer, mais vous les mixez. On disait oui. En fait, elle a mangé depuis 6 mois à la main. Enfin bref, le demi-œuf.
Ouais, c'est ça, un demi-œuf ou un quart d'œuf dur écrasé à la fourchette. En fait, elle le prend à la main au tiers et elle le croque dedans. Quoi. Donc non. Mais c'est et quand on regarde le carnet de santé où il y a l'introduction, j'ai regardé hier l'introduction des aliments. En fait, avant 12 mois, il y a
pas
quasiment rien. Quoi. Ouais. C'est tout en purée ou bien ils marquent un petit morceau puis ils mettent des astérisques à côté en fonction de l'enfant. Ouais. Genre on prend pas trop de risques. Sauf qu'en fait, quand on regarde des étouffements, c'est pas à cet âge-là que les enfants s'étouffent avec ce qu'ils mangent.
Oui, et puis ils ont le fameux réflexe gag. T'en parles dans ton bouquin. Ouais. C'est très bien de le rappeler parce que ça, c'est sûr que ça fait peur aux gens qui n'ont pas l'habitude quand on est à table avec des papis, mamies, que tata, tonton qui n'ont pas l'habitude de voir l'enfant manger, nous ça nous inquiète plus, mais c'est vrai que quand l'enfant fait le petit réflexe de rejet de l'aliment, tout le monde s'affole autour de la table en pensant qu'il s'étouffe, alors que pas du tout. Mais cependant, il y a quand même quelques règles à tenir avant de commencer, finalement, avant de commencer n'importe quelle diversification, j'ai envie de dire. Oui. Mais d'autant plus la livrée autonome, tu peux nous les rappeler ?
Donc, les premiers prérequis, c'est déjà le fait que l'enfant puisse maintenir un objet dans la main, donc la gripper par lui-même, et puis le ramener à sa bouche. Déjà, ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, qui est très importante aussi, c'est que l'enfant puisse au moins rester assis avec le dos droit et la tête bien droite. Ça peut être sur nos genoux, ça peut être aussi dans une chaise haute, mais il faut vraiment qu'on veille au fait qu'il soit pas incliné et qu'il penche pas dans la chaise haute. Après, le reste, il a envie. Quoi. Ouais. Voilà.
Et puis le corps est quand même une sacrée mécanique, ce qui fait que, concrètement, ce qui ne rentre pas dans la gorge, ça ne peut pas rentrer dedans. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un morceau qui se coince, même nous adultes, quand il y a quelque chose qui se coince dans la gorge, c'est qu'il a déjà réussi à rentrer dedans. Donc si le morceau est trop gros, il ne peut pas rentrer dans la gorge. Quoi. Quand le morceau est coupé de façon intermédiaire, au final, qu'il y a le plus de risques.
Tu t'es mis des obligations, toi, de commencer par les légumes, puis c'est souvent ce qui est recommandé, même dans la diversification
Pour le premier, on met la barre haute, hein, on va tout bien faire.
Après, on dit qu'on en a fait survivre
Après, le deuxième et le troisième encore. Non. Et puis, c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'à partir de 6 mois, toutes les familles d'aliments peuvent être introduites, peu importe l'ordre. C'est pas un casse-tête où, justement, on dit « je suis obligée de lui faire manger tel aliment ». Non, vraiment, à partir de 6 mois, tout peut être introduit. Voilà, ouais, c'est un plaisir. Puis aussi, en fonction, surtout les bébés allaités, ils vont aussi retrouver un peu l'alimentation de la maman et de la famille qu'il a toujours eue. Alors, et dans le placenta, donc, puisqu'ils ont les goûts de l'alimentation de la maman. Mais après, même dans l'allaitement, ça passe. Et c'est vrai, quand il retrouve cette culture culinaire dans laquelle il a baigné, ça fait sens, quoi,
ça
aussi.
Plutôt bien.
Là, ça me fait penser, nous, l'une des grosse différence entre Lou et Zoé, c'est que Lou, au niveau des légumes, par exemple, il n'y a aucun souci, et Zoé, c'est pas du tout le cas. Et donc, tu parlais, finalement, on peut dire que l'enfant, il se diversifie avant de naître, puisqu'il goûte la même chose que sa maman dans le ventre, puis après par l'allaitement. Et nous, on s'est rendu compte que Zoé, qui est un bébé d'hiver, par exemple, a beaucoup moins d'appétit pour les légumes. Donc, on se demande, est-ce que finalement, le fait de manger moins de légumes à cette période-là, ou plus de légumes verts, ça change pas un petit peu la perception ?
Alors, on peut entendre les discours des parents, et ça, c'est super intéressant. Malheureusement, il n'y a pas assez d'études qui sont là-dessus, sourcées et fondées. Mais ce serait très intéressant d'avoir une étude là-dessus.
Bah, on avait la candidate idéale, hein, Lou, clairement, elle dévorait. On avait presque un souci, entre guillemets, parce qu'elle dévorait tellement que ce n'était pas cohérent avec le poids qu'elle ne prenait pas. Et que la pédiatre nous disait, mais c'est impossible, ce que vous me dites, elle ne mange pas tout ça. À un moment donné, je lui avais même répondu, mais venez à la maison, en fait, à un moment donné, si vous ne croyez pas. Bon, bref, voilà. Et du coup, on est reparti pour Zoé en disant, on va faire la même chose, ça va être top. Et puis, ça n'a pas été
tout à fait la même,
ça a été plus compliqué. Il a fallu aussi accepter ça et se dire, bon, on se détend, tout va bien, elle est encore à l'été, elle a ce qu'il faut. Toi, tu as vu des différences entre tes différents enfants ?
Énormément. Déjà, le premier, c'était le candidat idéal, il dévorait tout, il avait mangé plein de choses et c'était très facile pour lui. Et Naomi, ma deuxième, qui est d'ailleurs, vous la connaissez, elle est toute petite, toute grignette, petit appétit et petit estomac, et qui se rassaisit très vite. Donc, elle mangeait vraiment par petites portions microscopiques, mais ça lui allait bien. Ouais. Et du coup, je me suis dit, allez, j'écris le livre justement pour déculpabiliser, décomplexer les parents. Donc, il faut aussi que moi-même, je sois un exemple là-dessus. Ce n'est pas toujours évident. Et au final, ils ont survécu à tout ça. Et puis, ma dernière, c'est pareil. Elle mange complètement différemment. Maintenant, elle mange même plus que sa sœur, sa grande sœur. Après, il faut se dire que chacun a sa nature. Ce que j'aime aussi me retenir, c'est ce que je parle au début de mon livre, c'est l'intelligence qu'on a par rapport à notre propre corps. On a un instinct alimentaire qui est vraiment, hélas, pour le coup, il y a eu des études fondées là-dessus et qui expliquent que chaque corps est différent et qu'on est nous-mêmes le seul être qui puisse comprendre ce qu'on a vraiment besoin. Et l'enfant le sait dès le début. Si on le laisse libre, on peut justement lui permettre de garder ça, même adulte. Et il y en a beaucoup d'adultes qui ont perdu cette intelligence-là, en tout cas,
le fait de savoir comment on mange, voilà, ce qu'on mange, et écouter son corps,
voilà,
finalement,
écouter c'est son le fameux, corps, c'est instinct alimentaire.
Enfin, on rappelle, parce que ça aussi, on a eu ce genre de réflexion où tu t'es dit, mais comment tu peux me poser cette question-là? Bébé mange comme nous égale bébé mange sain comme nous. Ça veut pas dire que je vais faire de la pizza bien grasse et qu'il va manger de la pizza là tout de suite, là maintenant. Mais après, c'est aussi du coup, en tout cas pour nous, je trouve que ça a été une réhabitude alimentaire à prendre pour nous.
Oui.
Parce qu'on faisait attention pour Lou. On a aussi baissé notre consommation de viande parce qu'elle en mangeait chez nounou et on voulait pas qu'elle en mange deux fois dans la journée. Donc en fait, on a réappris à cuisiner différemment. Ouais. Mais bien évidemment que quand on fait de la diversification libre et autonome ou DME, on l'appelle comme on veut, on part sur des produits sains.
Oui, ça pas être du kebab coupé en lamelles ou autre. Enfin, voilà. C'est vraiment.
Il y a des gens qui posent la question, en disant mais elle mange comme vous, mais comment ça? Non, bien évidemment. Après, que toute la famille aussi repart sur des
Après, nous, bases. On fait des bonnes pizzas à la maison, et pourquoi pas aussi, parce que c'est super sain, si c'est fait maison, bonne pâte maison, des céréales complets, de la bonne sauce tomate fait maison, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que le fait qu'on soit acteur et qu'on doit montrer l'exemple, au final, c'est ça, on se fait une diète peut-être un peu plus light et plus équilibré, mais de toute façon après ça va aller pour tout le long de la vie de l'enfant, donc pourquoi pas maintenant en fait.
C'est un peu comme le sommeil, il y a des petits dormeurs, des gros dormeurs, et finalement au niveau des repas c'est pas, il y a des petits mangeurs, des gros mangeurs, et ce qui fait que nous on était toujours, nous finalement non, mais Lou avait des portions assez impressionnes quoi. Enfin.
Et ça inquiétait beaucoup les gens.
Ça inquiétait beaucoup, elle mange beaucoup. Et nous on s'en rendait pas compte vu qu'on n'avait pas d'éléments de comparaison.
Puis le fait est qu'elle devait avoir un métabolisme qui demandait de manger beaucoup parce qu'elle prenait pas tant de poids ce qui à un moment donné faisait un écart. Ouais. Et puis après d'un coup, elle était bien bouboule à ses 2 ans, puis après ça s'est régulé et maintenant elle est.
Et c'est un point tel que pour faire manger sa petite sœur. On s'est rendu compte que si on prenait des assiettes plus petites, et peut-être que Zoé était plus intéressée par ce qu'elle avait dans une assiette plus petite. Quoi. Voilà. Enfin, c'est des détails, mais assez fous, parce que Zoé mange, je pense, 2 fois moins que Lou au même âge. Quoi.
Oui, largement.
C'est ce que j'explique justement dans le livre, c'est que au départ, on veut que l'enfant mange beaucoup, et on a des espoirs disproportionnés par rapport à la taille de leur estomac ou leur appétit. Donc, toujours faire petit, quitte à resservir. Mais c'est vrai que ça peut être impressionnant. Et justement, j'ai une petite mangeuse à la maison, et avec des grandes assiettes, des grandes portions, elle ne mange plus rien, mais même pas une fourchette dedans. Quoi.
C'est un peu le même principe que les jouets, on en a déjà parlé, mais d'ailleurs, on est très mauvais là-dessus. Mais quand ils ont 3 tonnes de jouets autour d'eux, ils ne jouent plus à rien. Alors que si finalement, on prend un peu le temps de faire une petite sélection et d'en laisser que quelques-uns sympas, puis qu'on tourne, ils vont plus se réintéresser au jouet qui n'est plus noyé dans une masse. Mais c'est un peu la même idée finalement.
Écoute, merci beaucoup Fanny,
en tout cas,
d'être venue. On va rappeler du coup le titre de ton livre qui s'appelle « À table avec bébé » et c'est aux éditions Mama.
Mama édition.
Et on peut le retrouver dans toutes les librairies quasiment de Bourg.
Oui,
parce qu'elle est burgienne, Fanny. Hein, cas où vous ne l'aviez pas compris, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais autrice burgienne. Donc si vous avez 2 bouquins l'un à côté de l'autre, prenez le sien quand même. Elle est d'ici.
Eh bien, merci. Et on va s'écouter du coup petit morceau de Minibus. On s'est dit que petit morceau, petit morceau de nous, petit morceau dans l'assiette, ça correspond bien aussi à nos rêves, à nos envies, et puis à nos enfants.
Plante ingénue,
arrose-la de passion.
chose, la d'espérance. Tous les jours c'est du boulot pour en faire un petit morceau.
Allô, bébé ?
Ici papa. Alors les filles, ça vous a plu cette semaine ? Ben ouais, vous avez de la chance de partir à la montagne. Et oh, c'est pas donné à tout le monde, hein. C'est on des vacances avec votre maman qu'on apprécie bien. Une semaine sur les hauteurs, au rythme d'une météo incertaine, des plats au fromage, des courses pour être à l'heure. Oui, je sais Zoé, tu voulais pas aller à la garderie Piu Piu, mais que veux-tu ? C'est vraiment une raison pour faire une grosse colère ? Ça a l'air de me faire culpabiliser, c'est ça ? Alors t'as aucune raison de t'arrêter ? Ouais, c'est pas faux. Je culpabilise grave. Papa va s'éclater sur les pistes de ski avec maman et les tatas. Lou va apprendre à skier et toi, on te dépose au vestiaire. Hein. Oui, Lou, je sais. Quand on récupère ta sœur, elle est toute contente. Elle a passé une chouette journée avec plein de nouvelles chansons et de nouvelles rencontres. Mais le problème, c'est que c'est moi qui la dépose, mais que c'est maman qui va la chercher. Parce qu'au moment d'aller la chercher, bah ouais, on est encore sur les pistes de ski. Donc moi, je vois pas que Zoé est heureuse de sa journée quand je vais la chercher. Hein ? Puis je sais pas que t'es heureuse, Zoé. Et moi, je me fais des reproches. Si seulement tu savais que je savais que ça se passait bien à la garderie Piu Piu, on n'aurait pas ces tempêtes émotionnelles. Oui, c'est un beau mot hein, pour dire colère. Eh ben Lou, finalement, tu vois, c'est ce que j'ai fait avec ta sœur. Jeudi, ta maman, elle a un peu de temps pour descendre la piste. Bah ouais, quoi, après une longue journée, elle peut aller plus lentement, non ? Eh ben finalement, c'est moi qui ai été chercher Zoé. N'est-ce pas, hein, Zozo ? Et je t'ai vue, toute sourire, toute contente, en train de dire au revoir. Et même que t'as voulu laisser une poupée de la crèche veiller sur ton sac et que tu as laissé ton sac dans le casier. Eh ouais, Lou, ta sœur, elle a laissé un petit morceau d'elle à la garderie Piu Piu, comme pour dire qu'elle reviendrait le lendemain. Et en effet, Zoé, vendredi dernier, pas de colère, ou bien juste pour la forme, hein, et un papa qui n'a pas culpabilisé en voyant que Zoé s'amuserait bien. Oui, t'étais sur ton beau camion quand je t'ai déposé. Il te plaît, hein, ce camion, hein ? Ouais. Comment, maman ? Par contre, en allant chercher Zoé, toi, t'as eu droit à une colère ? Et pourquoi t'as eu droit à une colère ? Ah, parce que c'était le dernier jour et elle voulait encore revenir à la garderie Piu Piu. Eh oui, bah oui, c'est comme ça, Zoé. Et ? Mais n'empêche, hier, t'as retrouvé qui, hier ? Bah, t'as retrouvé Isabelle, de ta crèche à toi, eh oui. Tu nous en parles souvent. T'as un autre lien avec elle, je sais. Oui, c'est différent des personnes qui peuvent te garder occasionnellement. Isabelle, parfois, elle passe plus de temps avec toi dans une journée que nous-mêmes et elle te voit grandir au jour le jour. Oui, tu nous en parles beaucoup, tu l'aimes bien Isabelle. Eh, mais tu sais, l'an prochain, tu vas quitter la crèche et ce sera l'école. Allez, t'as encore le temps de grandir et de pousser, hein.
Et Et si Zoé vous racontait, elle vous dirait sûrement. Et coucou vous, vous savez quoi? Il m'est arrivé un truc de fou quand maman était pas là. Bah ouais, fallait bien que j'équilibre les choses après avoir arrêté l'allaitement pile poil sur une absence de papa il y a 2 ans. Je sentais bien que ça l'avait un peu vexé, mon papa, que je passe cette étape sans lui. Bah ouais, mon papa, il a pas de sein, mais c'est pas pour autant que ça le concernait pas, mon papa. Alors je me suis dit que cette fois, ce serait pendant l'absence de maman que j'allais accomplir de grandes choses. Ouais, mes parents, ils sont comme ça. Ils sont absents parfois. Bref, j'exagère un poil peut-être. Bon, vous voulez savoir ce que j'ai fait cette fois? En même temps, on me restait pas grand-chose à accomplir. Hein. Je mange comme une grande, je marche, je parle. Limite, j'ai déjà tout appris de la vie. Comment ça? Pas du tout, Lou. Oh, voilà ma grande sœur qui vient me gâcher mon plaisir à chaque fois que je dis que ça y est, je suis grande. Ouais, mais là quand même, Lou, tu peux pas dire l'inverse. Hein. C'est un vrai truc de grande que j'ai réussi à faire cette fois. Mais si, moi, Eddie. Bon, ne l'écoutez pas. Elle fait tout rien que pour m'embêter, de toute façon. Bon alors, vous qui m'écoutez, vous avez envie de savoir ce que j'ai fait? Alors? Bah ouais, j'ai arrêté les couches. Enfin, en journée, hein, faut pas déconner. Mais quand même, plus de couches, comme ça, du jour au lendemain. J'ai demandé une culotte à mon papa et en avant Guingamp. Et franchement, ça se passe plutôt bien. J'aurais pensé finir les pieds mouillés bien plus souvent, mais que nenni, je gérais comme une chef. Maman, au téléphone, elle n'en revenait pas de ses oreilles. Parce que même si j'allais sur le pot avant, il était hors de question de me retirer ma couche sans que je hurle. Ouais, ouais. Elle avait bien essayé, maman, mais quand j'ai pas décidé, moi, c'est même pas la peine d'insister. Et là, bah, j'ai décidé, alors ça a marché. Magique, non? Comme quoi, les grands, parfois, ils se font des nœuds au cerveau pour rien. Mais bon, faut bien qu'ils remplissent leur jauge à angoisse, les parents. C'est peut-être même pour ça que mon papa a plein de cheveux blancs. Papa, dis papa, pourquoi t'as des cheveux tout blancs et pas maman?
C'était Cynthia et c'était Rémi et nous recevions Fanny Alliot ce mois-ci pour À table avec bébé. Merci beaucoup Fanny d'être venue.
C'était un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir accueillie chez vous.
Et pour notre part, on se donne rendez-vous le mois prochain. Mais d'ici là, vous pouvez nous retrouver en podcast sur radio-b.fr.
Ou sur notre page Facebook, qui est plus 3 jours, Cynthia, en tapant simplement la parentèle enchantée. À la prochaine.
À la prochaine.
Bisous.